Bien, je vous propose de faire trois lectures très brèves. On va commencer avec une toute première dans l'épître, la première épître aux Corinthiens. Et nous lirons le chapitre 12, 2, pardon, pas 2, pas 12, 2, versets 9 à 15. Ce sera la plus longue lecture. Alors, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 15. Alors, nous allons parler d'un thème un peu spécial ce matin. Je parlerai du langage de l'esprit et de l'esprit de notre langage. Ce n'est pas un thème philosophique, n'ayez pas peur. Alors donc, je répète, 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec un E majuscule, le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Une seconde lecture dans 1 Corinthiens 13, ça c'est un passage que on doit connaître presque par cœur. 1 Corinthiens 13, les trois premiers versets. Notre sœur Céline disait dans son message tout à l'heure, à la fin, « Et l'amour ne périt jamais. » Et c'est ce que nous allons voir. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et une toute dernière lecture très courte dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 63. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Alors je répète ce titre, il est un peu ambigu peut-être pour certains, mais c'est le langage de l'Esprit et l'Esprit de notre langage. Je dirais tout de suite que les pasteurs n'ont pas le monopole du langage de Dieu, même s'il y a longtemps qu'on parle de sa part. Alors pour que l'Église devienne conquérante, je dirais que tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, doit oser et savoir parler de sa foi, dire pourquoi il croit, pourquoi il est enfant de Dieu et en quoi cela consiste ensuite. Alors, devoir difficile, et pas seulement à cause de ce qui subsiste en nous, parfois de timidité, voire même de lâcheté, le langage spirituel n'est pas facile à manier. Et plus d'un a pu s'y essayer, qui s'est vite découragé de se voir, on peut dire, quasiment incompris, et de contester la stérilité de sa bonne intention. Alors, je ne pense pas ici à nos échecs auprès des matérialistes endurcis, étrangers à toute préoccupation supérieure, et à qui s'affirme seul l'être naturel, que l'apôtre Paul d'ailleurs désigne par ce cruel et vrai, ce mot cruel et vrai, c'est l'homme animal. Il traite ces hommes de homme animal. C'est le principe animé des êtres en général. Alors, mais je songe bien plutôt à ceux que vous devinez assoiffés de vérité, assoiffés d'un certain progrès et de lumière. Et en face de tel ami, de tel enfant, de tel frère malheureux, il vous est certainement arrivé de dire « Ah, si j'avais su mieux traduire mes convictions ou ma conviction, si j'avais su mieux exprimer les certitudes et la paix qui me viennent de Dieu, n'aurais-je pas pu vraiment l'aider, le consoler, l'orienter vers mon Sauveur ?» Et parfois, on se mord les doigts de ne pas avoir été au fait, c'est-à-dire de ne pas avoir conclu aussi rapidement qu'on le souhaitait, après avoir témoigné du Seigneur Jésus. Alors, essayons maintenant à l'école de l'Écriture et à celle de Jésus de retrouver le secret de savoir parler des choses de Dieu dans le seul langage qui leur soit approprié, c'est-à-dire le langage de l'Esprit. Et vous remarquerez, enfin, dans les lectures que nous avons faites, l'apôtre Paul, entre autres, donc, essaye de s'exprimer dans un langage acceptable par ceux à qui il s'adresse. Par exemple, quand il va aller à Athènes sur l'Aréopage, donc l'Aréopage d'Athènes, il va s'adresser à des philosophes. Et là, il va parler sur le même thème, c'est-à-dire philosophie, pour les amener à Jésus-Christ, pas pour discuter seulement de philosophie. Si je m'adresse, comme j'ai l'habitude de le faire, à des juifs, eh bien, je parlerai le langage qui leur convient, c'est-à-dire un langage vétérotestamentaire, mais un langage adapté à ce qu'ils savent. Et si vous me permettez cette petite allusion à propos des missions, dans le monde de la mission, eh bien, il y a une philosophie de la mission, c'est-à-dire partir de ce que les gens savent pour leur communiquer ce que nous savons. Mais il faut savoir ce que ceux qui sont en face de nous savent. Ça, c'est primordial pour que notre message puisse passer. Donc, essayons, je répète, à l'école de l'Écriture et à celle de Jésus, donc, de retrouver le secret de savoir parler des choses de Dieu dans un langage compréhensible et compréhensif également. Alors, parler spirituellement des choses spirituelles, c'est en parler dans le langage de la vie, je dirais même dans le langage de la poésie et dans le langage de l'amour. Et on va aborder ces trois points. Pour ceux qui me connaissent de vieille date, je n'ai pas essentiellement l'âme du poète, vous le savez très bien, et pourtant je parlerai tout à l'heure de la poésie de la Bible. Alors, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus va dire « Mes paroles sont esprit et vie ». Elles sont vivantes parce que tout simplement vécues, elles sont vivifiantes parce que vivantes. Et que ne répète-t-on pas à propos de notre patois de Canaan ? Nous en avons un, les pasteurs évidemment l'ont. Et de notre théologie soi-disant morte, de notre vocabulaire pieux. Je sais bien que nous employons des mots qui ne sonnent pas ou qui ne résonnent pas à l'oreille de nos contemporains de façon réelle. Quand on parle de sanctification, on se demande où il faut acheter ça. C'est difficile. On parle d'oreilles sanctifiées. Enfin, il y a toutes sortes de mots qui constituent notre patois de Canaan. Quand on parle des livres religieux, livres ennuyeux, dit-on. Quand on parle de discussions doctrinales, subtilités absurdes sur des problèmes insolubles ou même imaginaires, comme autrefois on parlait sur le sexe des anges. Liturgie, certains diront léthargie. Liturgie vaine redite ou formule pétrifiée, héritage périmé d'époque révolue. Dans ces jugements massifs et sans nuance, se mêlent, je dirais, à la fois le vrai et le faux. Ceux qui sont formés ou qui ont forgé le langage de notre piété ont usé de certains mots qui, pour eux, étaient pleins de sève et débordants de puissance. Et vous conviendrez que les grands hommes de Dieu, tout comme les inspirés de la Bible, ont vécu ce qu'ils ont enseigné. Je pense que, en tant que pasteur, après tant d'années, je ne m'autoriserai pas encore, malgré ces nombreuses années, à parler de choses que je n'ai pas encore expérimentées. Je crois qu'il faut en avoir fait l'expérience pour pouvoir parler de ces choses de Dieu. Alors, vous conviendrez donc que ces hommes de Dieu ont employé des mots qui est un langage qui correspondait à une certaine somme d'expériences qu'ils avaient faites. D'ailleurs, de quel droit reprocher aux chrétiens qui fait des expériences nouvelles, ignorées de l'incrédule, de recourir pour traduire ce qu'il a appris à connaître à des mots donc qui n'ont pas cours dans le monde. J'entends par exemple nouvelle naissance, salut, rédemption, grâce. Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'homme de la rue, tout cela maintenant. Alors, l'Église de Jésus-Christ a également son alphabet, nécessairement indéchiffrable à ceux qui n'ont pas la foi. J'avais une vieille cousine qui m'a élevé pendant la guerre, 39-45, pas 14-18, hein. On ne sait jamais. Mais cette brave cousine, qui était pratiquement athée, d'origine catholique, et qui m'envoyait autrefois à la messe pour représenter la famille, car elle n'y allait pas elle-même. Donc, cette chère cousine qui est partie maintenant, ad patres, enfin je ne sais pas où, mais enfin elle est partie, et elle me disait, mon Dieu, elle sortait tout de suite son petit, pas le portefeuille, mais enfin un petit porte-monnaie, ça c'est mon Dieu, elle me disait, quand je voulais lui parler du Seigneur. Et nombreux sont ceux qui encore aujourd'hui pensent ainsi, évidemment. Donc, que d'autres nous demandent compte du temps que nous passons, tandis que le monde souffre et s'égare, à opposer justement chapelle à chapelle, formule à formule, à nous évader hors de la terre et loin du présent pour disserter sur des mystères du ciel, pour nous réfugier dans les pierres du passé et pour nous noyer, certains diront, dans les brumes de l'avenir. Voilà ce qui dénonce notre péché à nous. Il faut que des chrétiens poursuivent librement, me semble-t-il, et au bénéfice de tous, le travail théologique, c'est-à-dire l'effort intellectuel pour approfondir le sens des textes sacrés et des pensées de Dieu qui s'y trouvent exprimées. Pour certains, la théologie est un véritable épouvantail à moineaux. Quand on prononce ce nom-là, on dirait qu'on a péché, déjà. Ah oui, théologie, ça... Ça sort par les oreilles, ça sort par les yeux, par les narines, surtout tout sauf la théologie. Mais quand on commence à parler de Dieu, c'est une forme de théologie déjà. Alors, mais le langage spirituel est plus près de la vie que le langage de nos écoles. Le langage de la foi n'est pas celui de la théorie religieuse. Il est le langage vivant et spontané de l'âme qui prie, qui adore et qui dit... à son Sauveur, sa ferveur et sa reconnaissance de lui appartenir pour ce temps et pour l'éternité. Alors, le risque terrible de celui qui veut parler le langage spirituel, c'est d'exprimer par ses lèvres un autre message que celui qui se dégage de sa vie. Là est la possibilité de divorce entre le langage de l'esprit et l'esprit de notre langage. Quand il y a un décalage énorme entre ce que nous disons et ce que nous vivons, ou ce que nous manifestons dans notre vie de tous les jours. Les pierres, je ne dis pas là, mais les pierres de scandale dans l'Église, celles sur qui trébuchent parfois ceux qui sont en route vers Dieu, ceux qui démarrent dans la vie chrétienne, ne sont pas uniquement dans telle ou telle chute déplorable d'un frère qui se croyait debout. Mais voici l'homme, le serviteur impitoyable, par exemple, dénoncé par Jésus, qui aime à répéter « Dieu m'a pardonné, gloire à Dieu, gloire à son saint nom, s'il est pentecôtiste, il dira Amen ou Alléluia, tout verzingue, sans savoir même ce qu'il dit bien souvent », et qui se montre, à côté de cela, absolument intraitable et dur à l'égard d'un frère qui se trouve en détresse. Là commence le divorce entre le langage de l'esprit et l'esprit de notre langage. Un autre, voici un converti de hier, qui se prétend donné à Dieu, et dès lors complètement transformé, métamorphosé, et ses proches retrouvent en lui la même avarice parfois, le même égoïsme et le même sale caractère qui ont fait jusqu'ici leur tourment. Là aussi encore, divorce entre le langage de l'esprit et l'esprit de notre langage. Autre encore, voici le chrétien mort au monde et qui le manifeste par la raideur de son jugement à l'égard de ceux qui recherchent des honneurs et des plaisirs que lui méprise. Et le péché s'est gardé pourtant chez lui une chambre secrète. Je dirais qu'il s'est même réservé ses idoles. Alors si le vocabulaire de l'Église paraît à certains artificiel, conventionnel, trompeur, c'est bien aussi à cause justement de nos trahisons. Et je viens d'exprimer certaines formes de trahison. Alors, qui oserait maintenant prétendre, en lisant quelques biographies d'hommes de Dieu, que les mots conversion, sanctification et autres sont des vases creux et ne cachent que du vide? Pas du tout. Et n'avez-vous pas tous rencontré quelques-uns de ces témoins qui possédaient, eux, le droit de parler le langage spirituel parce que leur vie tout entière révélait la présence du divin en eux? Et pour avoir, par exemple, entendu les lèvres d'un malade torturé ou d'un solitaire abandonné par tous murmurer « Dieu est bon », vous avez alors saisi ce qu'est la folie de la foi, la folie de la croix, plus sage que la sagesse des hommes. J'ai souvent été ému, parfois jusqu'aux larmes, d'entendre de chers chrétiens ou de chères chrétiennes torturés par toutes sortes de souffrances, de problèmes, de malheurs, dire, comme je viens de le dire, Dieu est bon au milieu de leurs souffrances intenses. Il faut avoir la foi non seulement chevillée au cœur, mais aussi au corps, quand nous en arrivons à pouvoir dire cela en pleine souffrance, en plein désastre parfois. Alors pour avoir pénétré dans un foyer jadis ravagé par le désordre et par la méfiance, et y avoir respiré aujourd'hui l'atmosphère de la confiance et de la paix, vous avez là aussi, si vous avez pénétré dans un tel foyer, vous avez compris ce que peut signifier mourir et renaître en Christ. C'est une véritable métamorphose pour ceux qui ont connu cela autrefois et maintenant. Alors, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. « C'est vous qui êtes notre lettre, dit-il, c'est dans 2 Corinthiens 3, c'est vous qui êtes notre lettre connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, dit-il. C'est dans 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. Oui, écrite avec l'Esprit qui vivifie et donne seul, je dirais, le sens au mot sacré. La parole pieuse, qui n'est pas commentaire d'une vraie vie chrétienne et une de ces vanités par lesquelles vous pourrez peut-être réussir à tromper les autres et vous-même, mais vous ne tromperez jamais le Seigneur, car le Seigneur lit dans nos cœurs. Nous sommes comme des livres ouverts, nous qui sommes enfants de Dieu et les autres aussi d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il lit dans chacun de nos cœurs ce qui y est écrit. Il lit l'esprit dans lequel nous agissons. Ce n'est pas simplement nos actes qui sont importants, c'est l'esprit dans lequel nous agissons, où nous allons agir. Et cela est déterminant pour ce qui va suivre. Alors, parler spirituellement des choses de l'esprit, c'est tout d'abord apporter le message d'une âme soumise à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, évidemment, et qu'il annonce par tout ce qui peut lui servir de moyen d'expression, par ses pensées, par ses actes et aussi par ses accents. Parler de la vie par la vie, c'est-à-dire par notre vécu, parler de la vie de Dieu, parler spirituellement des choses spirituelles, on ne peut en parler que par le vécu quotidien. Demandez à votre femme ou à votre mari, s'il est chrétien, si ce qu'il pense de vous, peut-être aura-t-il le courage de vous le dire, je ne sais pas, mais c'est au foyer que les choses commencent à se passer. C'est là que nous découvrons réellement ce que nous sommes, de façon réelle, intérieure. Alors, le langage de l'esprit, c'est le langage de la poésie. Vous allez me dire, ça, c'est pas M. Boulagnon qui parle. Si, pourtant, je vous l'ai souvent dit, ma formation de base est technico-comptable et j'étais très loin de tout ce qui concernait la poésie. Je n'en ai jamais fait, je dirais peut-être malheureusement. Ça aurait pu me servir peut-être pour en parler par rapport à ce que dit l'Écriture, mais je n'ai pas été formé pour cela. Mais néanmoins, je vais en parler ce matin. Le langage de la poésie dans l'Écriture. Cette affirmation a-t-elle de quoi vous surprendre, surtout venant de ma part? Alors qu'il vous suffise donc de songer et aux origines du langage humain et au style de la Bible. L'enfant, on va prendre le petit enfant, commence par s'emparer poétiquement des choses. Il va essayer de leur donner une âme. Et il va les associer par les jeux de sa fantaisie avant de passer par l'école des connaissances exactes. Et les petits-enfants prennent des choses complètement inanimées, vont les animer, vont leur donner un nom, etc. Et c'est le commencement, je dirais, de la poésie, ça. Et ainsi, l'humanité naissante s'est créée des systèmes d'images, de signes, de symboles. Et sa première littérature de l'humanité a été d'ordre poétique. Lorsqu'il s'agit du monde invisible dans lequel baigne notre univers et dans lequel également respire notre âme, quel langage choisir si ce n'est celui de la poésie? Et l'apôtre Paul lui-même va trouver des mots poétiques, on va dire, pour décrire ce qui est indescriptible avec des mots humains, et il va employer des images, il va associer des choses qu'il a vues du monde infini, du monde céleste, il va essayer de nous les transmettre, et je dirais même plus loin que cela, le Seigneur lui-même, comment a-t-il pu arriver jusqu'à nous, à nous transmettre avec des mots humains, avec des mots qui soient compréhensibles et compréhensifs aussi pour nous, à nous transmettre quelque chose qui dépasse infiniment notre compréhension. Il m'arrive souvent de penser, surtout dans les périodes difficiles, à la divinité, à ce monde céleste. Et vous savez, on bute très rapidement sur cet horizon qui est fini pour nous. Nous butons dans toutes les directions. Et tout pasteur que je suis de plus de 52 ans maintenant, eh bien, il y a une foule de questions qui ne sont pas encore résolues dans ma petite tête ou dans mon petit ordinateur de pois chiche. Ouais, il n'est pas gros. Ça fait 1 kilo à tout casser, je crois, 1,5 kg, hein, le cerveau. C'est pas énorme. Mais des choses, on se pose encore des questions. Peut-être allez-vous me dire, mais vous devriez en savoir davantage après tant d'années. Non, je sais une chose, je crois que c'est Socrate qui a dit ça, je sais que je ne sais rien. Voilà. Après tant d'années, oui. On balbutie, on est comme des enfants encore, on est sur le bord du rivage en regardant l'horizon. C'est de la poésie, ça. On regarde l'horizon et plus on le regarde et plus il s'éloigne de nous. Et avec le Seigneur, on a cette impression que plus on le connaît, plus il devient énorme, grand, impalpable. Et pourtant, il est tout près, tout proche de ceux qu'il invoque, dit-il. Alors, la première littérature, je disais tout à l'heure, a été poétique. Alors, Dieu est grand, et j'y reviens, sa grandeur nous échappe. Qui que nous soyons, pasteur y compris, hein, sa grandeur nous échappe. Nous ne le voyons pas face à face, mais il nous est quand même donné de saisir ici-bas les reflets de sa majesté, les images de sa présence. Quand il est dit qu'il parlait bouche à bouche avec Moïse, il a vu une représentation de Dieu, mais il n'a pas vu la personne même de Dieu. C'est dans ce qu'on appelle les théophanies ou les christophanies, c'était des manifestations divines, évidemment, soit de Dieu ou de Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est à cela que nous invite notre Bible. Livre de théologie, la Bible. Tout d'abord, livre d'histoire et aussi livre de poésie et livre de vie. Car cette Bible nous indique comment Dieu veut que nous vivions. Il nous indique également quelle est sa volonté à notre égard. Et il nous dit comment pouvoir réussir une vie, quelle qu'elle soit, quel que soit notre âge. À la première page, le Verbe créateur retentit sur l'abîme et l'univers émerge de la nuit. Et à la dernière page, dans l'Apocalypse, l'illumination du ciel où il n'est plus, où il ne sera plus, ni mort, ni cri, ni douleur, car toutes les choses anciennes auront complètement disparu. Alors seule la poésie peut nous faire toucher cette inaccessible, on va dire. Alors, relisez les visions des prophètes, écoutez les accents du psalmiste dominé par cette invitation que je cite, c'est le psaume 119, « Que ma langue, ô Éternel, chante ta parole !» Quand nous chantons, non pas avec notre tête seulement, mais avec notre cœur, des hymnes pour la gloire du Seigneur, eh bien, c'est une autre forme de poésie. On met des paroles sur de la musique. Parole de Dieu, non pas un verbe à réciter, non pas un texte à disséquer comme un cadavre, mais un hymne à entonner et un hymne à la gloire de Dieu. Comme si elle éprouvait elle-même ses limites, la poésie spirituelle tend la main à ce langage sans parole, la musique, pour lui emprunter des ailes. Là aussi, vous savez, ma pauvreté sur le plan musical. Et ma fille, elle est prof de musique. D'où elle a tiré ça, je ne sais pas. Mais surtout, reprenez l'Évangile. Reprenez-le avec moi. Les paraboles de Jésus. On peut dire sommet de la poésie, où la simplicité va s'unir à la profondeur. L'enfant s'émeut en face, par exemple, de la brebis perdue et du bon samaritain. Enfin, j'étais un peu âgé, j'avais une vingtaine d'années. Non, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à lire l'Évangile. 16 ans, je lisais ça dans le métro, et je disais, avec mon esprit cartésien, je disais, bon, il se répète, j'ai déjà lu ça quelque part. Hein. Oui, quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez ensuite Luc, ou Marc, ou Jean, on a l'impression, moi j'ai eu cette impression, c'est pas intéressant, je remettais mon Nouveau Testament à la poche, parce que tout simplement, il a déjà raconté ça ailleurs. Hein. Mais il faut mettre ensemble tous ces passages, et vous aurez un panorama de ce qu'a été la brebis perdue, par exemple, ou l'histoire du bon samaritain. Et à la fin de sa course, les disciples disent au maître, c'est dans Jean 16, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. » Et ils n'avaient raison qu'à moitié. Lorsque Jésus révéla aux siens les secrets de sa vie intime et le lien qui unit le Fils au Père, avait-il vraiment donner congé à ces véhicules de l'esprit que sont l'image et le symbole? Non, non. Et Dieu parle encore aujourd'hui par des images et des symboles. Je pense qu'il peut parler, il a diverses façons de nous parler. D'abord par sa parole, ça c'est le premier grand point. Il peut nous parler par des songes. Il peut nous parler par des gens qui sont complètement athées et qui peuvent nous apporter, sans même le savoir, une réponse. Dieu est capable de faire parler un âne dans l'Ancien Testament. L'âne de qui? Bravo, 20 sur 10. C'est l'âne de Balaam. Alors s'il est capable de faire parler un âne, il peut faire parler n'importe qui dans le monde, hein, y compris un pasteur. Alors, oui, bien sûr. Alors, un père et des frères, le berger qui donne sa vie, le libérateur qui vient payer la rançon, le corps et le sang qui figurent le pain et le vin. On peut dire que tout l'Évangile du baptême jusqu'à la Sainte-Seine, de la parole du semeur à celle des vignerons qui mettent à mort l'héritier, tout cela enseigne et nous est enseigné par la poésie. Alors ne l'oublions pas, c'est par là que la Bible parle aux jeunes, c'est encore par là qu'elle parle à ceux qui, fatigués justement par la prose humaine, fût-elle prose religieuse, en arrivent à dire ceci: que pouvons-nous affirmer de Dieu qui dépasse les vieux symboles? Le roi, le berger, le père, pourquoi chercherions-nous une autre méthode que celle du Sauveur qui lit dans le livre de la nature et trouve ensuite dans les labeurs de l'homme, dans les jeux de l'enfant, dans les événements du foyer et dans l'histoire, les signes de la présence active de Dieu? Dieu peut nous parler, nous interpeller par toutes sortes de moyens. Je vous l'ai déjà dit, enfin pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, quand je suis venu ici voir mon vieux collègue Christophe de Moutchieff, j'étais pasteur baptiste à l'époque, mais je suis né à la Pentecôte, n'ayez pas peur, hein, pour les pentecôtistes. Et je suis né dans cette église d'ailleurs, il y a bien longtemps. C'était en 54 que je me suis converti. Alors donc, je suis venu le trouver ici. L'église n'existait pas encore. Il n'y avait pas de ciment, il y avait simplement la sortie de secours. Et j'ai discuté un certain temps avec notre frère. Et en sortant par cette fameuse sortie de secours, là-bas, la petite porte qui est à gauche quand vous sortirez, j'ai entendu ceci résonner en mon cœur: là est ta place. Là est ta place. J'étais toujours pasteur baptiste. J'avais des années de voyage à faire encore. Et je me suis dit intérieurement, la puissance du raisonnement cartésien, je viens chez les pentecôtistes et j'entends des voix. Authentique. Et puis je suis reparti et j'ai dit à mon vieux collègue avant de partir: je vous donnerai une réponse, si vous voulez que je vienne travailler avec lui, d'ici 6 mois, parce que j'ai un tas de tournées à faire et je ne peux pas venir immédiatement. Et au bout de 6 mois, pendant ces 6 mois, les choses ont mûri et diverses choses, des tout petites choses, sont venues confirmer que là était effectivement ma place. Et je ne suis pas venu ici avec beaucoup de joie à l'intérieur de mon cœur. Je connaissais mon vieux collègue, puisque je l'ai connu, j'avais 16 ans, et c'était, à part Jésus-Christ, on n'avait rien de commun. Ah oui, il m'appelait déjà Monsieur Boum Boum. Oui, enfin, c'est des petits secrets, ça, c'est pas méchant. Et Monsieur Boum Boum, j'avais l'habitude de ne pas garder mes deux pieds dans le même sabot. J'ai encore gardé un peu cette habitude, d'ailleurs. Et à un certain moment, convaincu justement que là était ma place, je lui ai téléphoné et je lui ai dit: je viens à telle date, etc. Et je suis venu ici en décembre 1974. Et j'y suis resté depuis, vous voyez. Mais Dieu est capable de parler par des choses tout à fait bizarres. Et c'est ça le langage de l'esprit. Il y a une certaine subtilité dans le langage de Dieu qui fait qu'il faut que nous soyons à son écoute. Je ne dis pas que vous allez entendre la voix de Dieu vous parler tous les jours. En 50 et quelques années, enfin, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, pour un ancien comptable, ce n'est pas fort, mais je me suis converti en 54, donc on est en, ça fait combien, ça, 57 ans, donc, hein, grosso modo. J'ai entendu une seule fois cette voix résonner: là est ta place. Rien avant, rien après. Hein, voilà. Alors n'essayez pas d'écouter toutes sortes de voix, écoutez la voix de la parole de Dieu d'abord. Hein. Bon, ceci dit, maintenant, je vais changer de registre. Je connais l'objection, la piété de la poésie n'est-elle pas la piété vague, sans arête ni contour, qui permet à l'homme de douter au lieu de croire, de rêver au lieu de lutter? Mais nous ne recommandons pas, je ne recommande pas la piété de la poésie, mais bien la poésie de la piété, ce qui est tout à fait différent. Et rien de plus insensé que de vouloir substituer à la vraie piété une forme quelconque d'art. Il n'est pas dit, tu n'adoreras ni la beauté, ni la musique, ni la poésie. Tu adoreras Dieu d'abord. Et tout le reste pourra suivre. Et ce Dieu a fait autre chose que de nous laisser deviner ses mystères à travers les desseins de nos désirs et de nos songes. Il s'est révélé dans des faits patents. Il a mis sa signature sur l'œuvre de sa création, on peut dire vêtement visible de sa gloire. Il nous a donné dans la conscience et dans l'histoire la claire révélation de sa loi. Il est apparu en Christ pour nous dire son vrai nom. En araméen, c'est Abba, papa, père. Personnellement, je n'ai jamais osé appeler Abba, papa. J'ai toujours dit père dans mes prières. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est toujours père. Alors, il n'a rien de la divinité imprécise, de la divinité anonyme, inconnue, qui autorise les cultes de toutes nos fantaisies. Mais pour parler de cet esprit avec un E majuscule, esprit souverain, qui est beaucoup plus grand que notre cœur et beaucoup plus grand que le monde, le meilleur langage sera celui qui respecte son mystère tout en exprimant sa splendeur. Dieu nous dépasse tellement. J'ai horreur de ces gens qui ont l'air de taper sur l'épaule de Dieu. J'ai horreur de cela. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour le Seigneur Jésus, j'entends, et pour Dieu lui-même, évidemment. Et pour moi, Dieu n'est pas mon copain de service. Dieu est mon Seigneur et mon Maître. Et celui en qui je crois, ou celui en qui j'ai cru et en qui je crois maintenant, ce n'est pas un copain, c'est celui qui dirige ma vie, avec beaucoup de subtilité de langage parfois, avec aussi une certaine émotion, et qui est capable de me donner la force d'affronter toutes les difficultés de la vie, aussi pénibles soient-elles. Alors pour parler de cet esprit souverain qui est plus grand que notre cœur, donc nous ne voulons ni la prose du doctrinarisme étroit qui étiquette les vérités spirituelles comme on étiquette et définit les corps chimiques, ni non plus la prose du rationalisme qui veut tout expliquer et tout ramener à la mesure de l'homme. Nous ne pourrons jamais ramener Dieu à la mesure de l'homme. On ne peut pas enfermer Dieu dans une équation. On ne peut pas enfermer Dieu entre les deux pôles de notre compas. Gardons le langage par lequel l'enfant parle de ce qui le dépasse, l'humanité de ce qui la domine et l'Église de son invisible, mais néanmoins réel roi. Le langage de la Bible, le langage de Jésus, ça c'est le langage de la poésie. Et je termine avec le chef-d'œuvre du langage chrétien. Il ne faut pas rester sur des à peu près. Où est le chef-d'œuvre du langage chrétien ? Nous l'avons lu tout à l'heure, c'est dans 1 Corinthiens 13. C'est dans le langage de l'amour. L'apôtre Paul, qui fut par vocation le premier missionnaire, et je dirais le premier théologien de l'Église naissante, a souvent éprouvé l'impuissance des mots. Les mots ne sont que l'emballage des idées. Notez ça au passage. Les mots ne sont que l'emballage des idées. Et ceux qui entourent un tout petit vocabulaire ont du mal à s'exprimer parce qu'ils n'utilisent qu'un certain nombre de mots qui reviennent toujours les mêmes. Enfin, qui sont toujours les mêmes. Mais ce n'est pas la densité de notre vocabulaire qui va faire le langage de l'esprit en nous. C'est tout à fait autre chose et je vais terminer avec cela. Il ne sait comment traduire, je parle de l'apôtre Paul, il ne sait comment traduire les accents entendus en certaines heures de ravissement alors qu'il se sentait transporté dans les cieux. Et quand on parle en langue, c'est ce débordement, je dirais, d'amour pour le Seigneur qui fait que notre langage habituel est complètement dépassé. Nos mots habituels sont complètement dépassés. Ils sont, je dirais, noyés dans le langage divin que nous ne pouvons qu'exprimer par ce fameux parler en langue. Ce sentiment du mystère de Dieu lui a inspiré les accents du poète aussi à l'apôtre Paul. Il lui a aussi permis d'approuver ce fameux parler en langue qui, à Corinthe, comme lors de la première Pentecôte, a mené les nouveaux convertis du Seigneur Jésus à entrecouper justement leurs discours de soupirs, de murmures indistincts, de louanges adressées à l'Éternel, phénomène semblable justement à ceux qui ensuite ont caractérisé de nombreux mouvements de réveil et d'enthousiasme. Ne les entendons-nous pas parler des merveilles de Dieu dans notre langage, disaient ceux qui les entendaient parler ainsi. Alors, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Paul respecte la ferveur des transports de joie et d'allégresse, on peut dire de ces vaincus par Dieu qui semblent balbutier par anticipation quelques dialectes célestes. Il est vrai que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Alors je sais que certains m'ont dit, t'es passé un peu trop au soleil, hein ? On ne comprend pas, mais le Seigneur comprend et ça c'est l'essentiel. Il y a une sorte de téléphone rouge qui s'installe entre l'enfant de Dieu et son Dieu. Que les hommes ne comprennent pas, que Satan ne comprenne pas, peu importe. L'essentiel est que Dieu comprenne même nos soupirs inexprimables. Il est des fois, ou parfois, il est certaines occasions qui existent où nous ne pouvons même plus exprimer avec nos mots ce que nous ressentons à l'égard de Dieu. Je ne sais même pas comment l'exprimer ce matin, voyez-vous. C'est quelque chose qui dépasse le cadre de notre vécu, de notre humanité. On aime le Seigneur. J'aimerais tellement, je l'ai dit souvent, que nous ayons une réelle passion pour Dieu et pour Jésus-Christ. Une passion qui fasse que nous puissions justement transmettre aux autres cette même passion de Dieu et de Jésus-Christ et de son Esprit. Alors, voilà un langage spirituel. Néanmoins, c'est Jésus qui va inspirer à l'apôtre Paul également le cantique de la charité. C'est 1 Corinthiens 13. On l'a lu, mais je ne veux pas abuser de votre patience. Vous pourrez le relire, 1 Corinthiens 13, les trois premiers versets. Oui, voilà ce qu'il dit, lui, le prédicateur, lui également le penseur. Et j'aime beaucoup cet apôtre Paul parce qu'il est capable de parler avec simplicité des choses divines, même avec complexité des choses de Dieu. Et il est capable de parler à ces fameux philosophes d'Athènes comme il est capable de s'adresser, comme l'a fait le Seigneur Jésus, à des petits-enfants avec des choses, des mots tout à fait usuels, compréhensibles, par tous, sans exception aucune. Alors, il connaît la langue sacrée des Écritures, l'apôtre Paul. Il connaît l'hébreu. Il connaît la langue internationale de son siècle. À l'époque, ce n'était pas l'anglais, c'était le grec. Il possède l'art de s'adresser aux savants comme à l'ignorant, de se faire comprendre de ceux qui sont complètement novices dans la foi, et celui d'entraîner les âmes, on peut dire possédées par l'Esprit de Dieu, à tout sonder, même les profondeurs de Dieu. Certains chrétiens, des vieux chrétiens, ont parfois de la difficulté à se mettre au niveau des jeunes qui débarquent dans la vie chrétienne. Et je reconnais que quand j'avais 20 ans, évidemment, j'étais loin de savoir ce que je sais aujourd'hui concernant le Seigneur. J'étais tout feu, tout flamme, toujours les deux pieds en dehors du sabot. Et il y avait un tas de choses qui m'échappaient. Mais progressivement, le Seigneur nous éduque à l'intérieur comme à l'extérieur, par des circonstances extérieures et par une éducation interne progressive. La révélation de Dieu est toujours progressive. Jamais il ne se dévoile d'un bloc et d'un seul coup à chacun d'entre nous. Progressivement, étape par étape, marche après marche, nous progressons en lui. Alors, Paul s'est arrêté devant son Sauveur et il le voit penché sur les humbles et sur les pécheurs. Il le voit qui montre le ciel en disant « Mon Père est votre Père ». Il le voit aussi comme celui qui sert au milieu de son peuple, capable d'aimer jusqu'à la fin et jusqu'à donner sa propre vie. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de chrétiens qui souffrent à cause de leur foi, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Je pense que si nous devions souffrir ce que eux souffrent en France, il y aurait beaucoup moins de chrétiens aujourd'hui. Et alors, à ces chrétiens corinthiens qui discutent de la valeur des différentes manifestations de l'Esprit, la prophétie, le don de guérir, le don des langues, tandis que s'insinue encore dans leur cœur la haine et l'orgueil, il écrit « Je vais vous montrer la voie par excellence, c'est l'amour ». 1 Corinthiens 12, verset 31. La voie par excellence, c'est VOIE, hein. Ça peut être VOX également. Alors, si vous ne la suivez pas, votre voix, V-O-I-X, est alors semblable à celle d'un airain qui résonne, d'une vibration rapide, en un instant évanouie. Quand je pense que certains usent la parole de Dieu comme une véritable matraque, au lieu d'apporter de l'apaisement et un peu de réconfort et un peu d'éducation biblique à ceux qui l'entendent, c'est à coup de matraque et qu'ils assomment les gens. Alors que le langage de notre vie chrétienne soit celui de l'amour, expression suprême de la vie spirituelle et dans sa réalité et aussi dans sa poésie. Que ma langue puisse chanter ô Dieu, je le dis pour moi-même, ta parole, celle que tu as prononcée sur nous en Jésus-Christ, la parole de l'amour qui descend pour servir, qui se donne et qui pardonne, qui souffre et qui se sacrifie, qui illumine le monde, parfois même en mourant. Il n'est pas de plus grand amour, c'est-à-dire que d'apporter à ceux qui nous entourent ce que nous avons reçu du ciel, non pas, disons, nos impressions, nos sensations, même nos propres expériences, mais que les gens sachent, après que nous soyons partis, qu'il y a un Dieu qui les aime, tels qu'ils sont. Non pas tels que nous voudrions qu'ils soient, mais tels qu'ils sont. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous n'avons pas encore des ailes qui poussent dans le dos, nous avons besoin d'apprendre tous les jours quelque chose concernant le Seigneur, mais n'essayons pas de matraquer les gens à coups de versets bibliques, mais qu'ils puissent se voir justement en nous, par notre vie, par le vécu, que notre langage est le langage de l'Esprit de Christ en nous. Dernier mot. Ce sont là quelques-uns des rayons qui doivent, à travers justement notre témoignage, à travers notre langage en acte, autant qu'en parole, annoncer dans nos ténèbres présentes les aurores futures. Demandons à Dieu que soit exaucée en nous la prière du Seigneur Jésus qu'on trouve dans Jean 17, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est ce qui va convaincre le plus tous ceux qui nous entourent, vos proches, vos parents, vos amis, s'ils peuvent discerner en vous une réaction d'amour dans des circonstances parfois très pénibles, une réaction d'homme complètement métamorphosé, alors ils diront, voici un homme de Dieu, une femme de Dieu. Ce qui a convaincu le monde, ce n'est pas la dissertation, ce n'est pas même, disons, de grandes théories sur, ou la théologie même. J'aime la théologie, je l'ai enseignée longtemps, et je l'enseigne encore un peu. Mais ce qui est important, c'est qu'au travers de ce que vous vivez, au travers de ce que vous dites, qu'il n'y ait jamais de divorce entre ces deux pôles et que chacun puisse trouver en vous l'homme et la femme de Dieu qui vit au diapason de l'Évangile et qui ne se laisse pas emberlificotée, je vais dire, par toutes sortes de théories qui n'ont plus rien à voir avec la Bible. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et alors, nous irons vers nos frères d'humanité, ainsi que vers nos frères en Christ, capables de parler des choses de l'Esprit dans le langage de l'Esprit. C'est un langage difficile, je le reconnais, mais c'est un langage qui s'éduque. Quand vous étiez petit, les premiers mots que vous avez dû prononcer, ça résonne un peu, c'est pas « areux », c'est dans les « a », dans cette note-là, « abba », « a », c'est le « a » qui prédomine. Garçons et filles, j'ai eu 2 enfants, j'allais élever 15. Alors, je sais de quoi je parle. Et les autres, ils n'étaient pas moi. Mais les premiers balbutiements de l'enfant, c'est « ah ». Alors après, ça se modifie un petit peu. Il dit « papa », alors il dit « maman », quand on dit « papa ». Mais enfin, c'est dans ces tons-là. Eh bien, notre éducation spirituelle se fait comme ça. On démarre tout petit et on termine tout petit. Eh oui. Car ceux qui se croient grands, ce sont des minus. Vous et moi, nous sommes tous au même diapason. Et j'aime beaucoup l'Évangile, parce que justement, il nous met à ce même diapason. Il n'y a pas les super spirituels et les pauvres qui démarrent. Non, non. Nous sommes des enfants de Dieu si nous avons Christ en nous, évidemment. Ça, c'est l'essentiel. Nous sommes là pour nous porter les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Mon Père Céleste, nous te disons encore merci ce matin pour la grâce que tu nous as accordée de te rencontrer sur le chemin de la vie. Seigneur, c'est non seulement une grâce de ce moment-là, mais c'est une grâce que tu nous renouvelles jour après jour parce que nous pouvons te rencontrer dans un face-à-face réel avec nos mots, avec nos phrases, avec ce que nous savons et ne savons pas encore, mais nous te prions de nous faire progresser les uns et les autres dans ta connaissance, dans la connaissance de ta pensée, de ta volonté. Seigneur, que nous puissions te dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime par-dessus toute autre chose, je désire te servir avec toute ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps, et que tout cela ensemble te glorifie dans les petites choses autant que dans les grandes. Seigneur, je te prie pour mes chers frères et sœurs ici présents, donne-leur la force de continuer le bon combat de la foi, donne-leur l'assurance que tu es avec eux dans les petites choses autant que dans les grandes, et que c'est toi qui conduis leur vie jusqu'au bout du voyage, ici-bas et dans l'éternité. Seigneur, nous t'aimons par-dessus toute autre chose. Je t'aime, Seigneur Jésus, et je veux te servir jusqu'au bout de ma vie parce que tu en es digne. Tu es digne que nous te servions, Seigneur, que nous t'aimions, que nous soyons comme à tes pieds jour après jour et instant après instant. Seigneur, nous te prions encore pour ce monde qui nous entoure. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre d'aller vers eux, de leur donner, Seigneur, ce que nous avons reçu du ciel. Nous ne pouvons pas nous laver les mains de ce que ces âmes sont en train de périr. Seigneur, nous ne pouvons pas les laisser pour compte sur le chemin qui mène en enfer, mais nous désirons tellement, Seigneur, que d'autres âmes arrivent à te connaître, arrivent aussi à vivre pour ta gloire. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour la gloire unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.